Bienvenue sur le podcast Le SaaS des leaders, votre espace-temps pour ensemble passer à la prochaine étape et avancer en cohérence avec les nouvelles attentes de la société.
Pour les jeunes générations, le signe de réussite professionnelle est avant tout d'être épanoui au travail. Et cela, bien plus que d'être bien rémunéré ou d'avoir du temps libre. Voilà des éléments clés ressortis dans une étude BVA Opinion réalisée pour l'ISC Paris. Nous avons donc plus de 8 jeunes sur 10 qui estiment même que pour être performante, une entreprise doit veiller au bonheur au travail. Alors, qu'est-ce que revêt aujourd'hui cette notion de bonheur au travail et comment peut-on le développer au sein de nos organisations ? Bonjour à vous, Yvanne Ledotte, coach professionnel accrédité et fondatrice du cabinet franco-canadien de coaching, le SAS. Pour cheminer avec vous sur ce sujet, je suis ravie de recevoir Alexandre Jost, fondateur et délégué général de la Fabrique Spinoza, dont la mission n'est autre depuis 12 ans que de développer la place du bonheur au sein de notre société. Alexandre nous partagera ce qui aujourd'hui fait sens quand on parle de bonheur au travail. Nous échangerons également autour des pratiques à mettre en place en tant que leader pour favoriser le bonheur au sein de ses équipes, et cela notamment dans un contexte d'organisation hybride. Et enfin, nous nous interrogerons aussi sur la responsabilité individuelle des salariés quant à son développement et évoquerons quelques clés à activer. Bonne écoute. Merci d'être venu, Alexandre, aujourd'hui pour ce podcast. Et écoute, pour commencer, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu nous parles de la notion du bonheur au travail. C'est une notion qui a été très controversée ces dernières années. Et ce qui serait intéressant, c'est que toi qui en as fait finalement ta mission de vie, de développer et placer le bonheur au cœur de la société, tu nous donnes ta propre définition.
En fait, à la Fabrique Spinoza, on cherche à croiser deux sources de réflexion pour définir le bonheur. La première, c'est la science, et la deuxième, c'est la délibération. Alors, la science, on va chercher une définition assez inattendue puisqu'elle vient de l'OCDE et qui dit que le bonheur au travail ou dans d'autres sphères, peu importe, mais en tout cas, il est composé d'une facette qui est hédonique, qui est émotionnelle. Est-ce que dans ma vie, il y a plutôt de la joie, de la tristesse, du stress, toute une gamme d'émotions, de l'exaltation? Ou est-ce que, deuxième facette, est-ce que ce bonheur comprend une facette évaluative ou cognitive? Est-ce que je suis satisfait de mon existence? Donc, par rapport à mes attentes, est-ce que je suis en bon chemin? Et enfin, une facette qui est plus aspirationnelle, qui est plus, on pourrait même dire, spirituelle, bien que restant laïque, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que moi dans ma vie? Est-ce qu'il y a du sens? Est-ce que j'appartiens à une communauté? Est-ce que je contribue à une cause? Et ces trois facettes-là, en fait, reconstituent le bonheur du point de vue de l'OCDE. Je trouve que c'est une assez belle définition, parce qu'elle fait justice à notre nature corporelle, émotionnelle, à notre côté mental, mais aussi à l'âme que l'on a, à nouveau, pris au sens laïque du terme.
On parle bien d'une communauté, d'une communion finalement de ces trois éléments où on peut les prendre de manière dissociée.
Les uns alimentent les autres. Lorsqu'on trouve du sens, ça contribue un peu à la joie. Mère Teresa était dépressive, mais il y a quand même une alimentation entre les différentes sphères de l'existence, une hybridation, une fertilisation croisée. Tout état de cause, chacun peut choisir d'être, de prioriser une facette de son épanouissement à une autre. Et c'est justement parce que chacun peut le faire qu'il est intéressant de faire dialoguer cette définition qui est scientifique avec le point de vue des gens et des citoyens. Et on a pour philosophie à la Fabrique Spinoza de systématiquement faire échanger, réfléchir, construire les gens sur cette notion de bonheur pour qu'à la fin, éviter toute dérive qui soit non démocratique et puis aussi que le bonheur soit défini dans un contexte qui fait sens, que ce soit celui d'une ville, une vie familiale, une entreprise, voire une nation. Et c'est le dialogue entre les deux qui produit eh bien, des critères qui font sens, comme David Cameron, par exemple, qui avait, quand il était en office Premier ministre anglais, eh bien, avait fait enquêter auprès de 200 000 familles pour définir ce que c'était que le « national well-being » et arriver à une roue nationale du bien-être pour les Anglais.
Ambitieux. Et dis-moi, Alexandre, juste pour revenir aussi sur une notion dont on parle beaucoup actuellement, l'importance de réintégrer l'amour, le sens et la liberté au travail. Bien plus que le bonheur, aujourd'hui, c'est des mots qui font écho. Alors, peut-être pas encore suffisamment la notion d'amour, mais j'aimerais ça que tu nous en parles.
Oui, bien sûr. Bien, en fait, à la Fabrique Spinoza, on produit cette analyse en s'interrogeant sur ce qui s'est produit pendant ces deux, trois années de crise sanitaire. Et on observe qu'il y a on aime bien utiliser l'expression « un souffle de liberté » qui nous porte. Et ce souffle de liberté, il vient du fait que eh bien, la digitalisation du travail, pour ceux qui ont pu réaliser du travail hybride, du travail à distance, eh bien, cette digitalisation elle a produit un changement des rapports et finalement une distanciation à l'employeur, en tout cas une prise d'autonomie plus grande. Donc il y a un souffle de liberté qui nous anime, qui est parfois dur à gérer. Hein. Les managers sont en grande majorité dépourvus pour savoir comment eh bien, faire avec cet être humain, ce collaborateur qui tout d'un coup, d'une certaine manière, ose déplier ses ailes autant que possible. Et puis, il y a un deuxième phénomène qu'on trouve intéressant, c'est celui de l'élan pour plus de sens. Alors, on est des êtres, comme je le disais, on est des êtres de sens, hein, les êtres humains, d'où cette facette du bonheur qu'on nomme aspirationnel. Et pour autant, les chiffres d'un sondage de Jobs and Make Sense, de Common Sense avec Audencia. Alors, j'ai un trou sur le chiffre, mais il me semble que le chiffre, c'est gigantesque. C'est comme 92% des personnes interrogées en 2022 qui disent s'interroger sur le sens de leur métier. Et ces chiffres-là, même si la question n'est pas toujours posée sous cette forme, n'ont jamais été aussi hauts à travers les enquêtes ou dans les enquêtes à travers les époques. Et donc, aujourd'hui, on s'interroge quant à sa vie et quant à son couple, pour certains, hein, il y a beaucoup de demandes de divorce pendant la crise sanitaire, le territoire où l'on vit, c'est pour ça qu'on lance une étude sur les territoires heureux au sein de la Fabrique Spinoza, et tout ça vient finalement atterrir dans le monde du travail et fait que les gens eh bien, démissionnent, le sens est un appel profond et la liberté est l'étincelle qui permet à ce feu aspirationnel de démarrer. Et donc, aujourd'hui, la grande question, c'est comment une organisation peut-elle, finalement, eh bien, réinventer, et on aime bien nous dire à la Fabrique Spinoza, son sens supérieur, d'où la question de la raison d'être, d'où l'émergence d'entreprises à mission, qui sont plus de 1000 à avoir été créées quand même depuis la loi Pacte. Donc, on voit vraiment, on parle même de start-up à mission, alors que ça n'est pas forcément ainsi que l'imaginaire accole ces deux mots. Et tout ça pour dire que aujourd'hui, on est dans une situation où le sens doit et peut émerger. Et je dis doit parce que chacun peut y mettre sa main à la pâte, le manager, le collaborateur, et puis l'organisation elle-même pour faire émerger ce sens. Et puis finalement, pour que tout ça, c'est pour que la vie soit belle, pour qu'elle soit pas juste libre. Et puis qu'on est en ligne de mire une cause supérieure, eh bien, on a besoin de liens humains qui nous a manqué, ou en tout cas, dont on a réalisé l'importance pendant les confinements successifs. Et puis aussi parce que parfois, la liberté est dure à exercer et le sens supérieur difficile à trouver. Et en dernier ressort, eh bien, il nous reste d'être des êtres humains sensibles et reliés. En tout cas, on peut faire ce choix. Et au point qu'aujourd'hui, des organisations, comme tu le disais, Ivan, eh bien, osent utiliser le mot « amour », qui était un mot très punk dans les années 2012. Je me souviens d'un garçon, Sébastien Henry, qui disait que son éditeur lui avait interdit d'utiliser le mot amour dans un livre sur le management. Et des années plus tard, eh bien, c'est l'amiral Olivier Lajousse, ancien DH de la Marine nationale, qui utilise ce mot. Il dit « J'aimais mes hommes et mes femmes parce que c'était le seul moyen de mener une grande aventure professionnelle ensemble. » Et ce mot trouve sa place dans l'entreprise aujourd'hui.
C'est tellement vrai aujourd'hui, tu vois, quand quand on échange avec les managers ou même quand on cherche à aussi les développer, il y a comme cet élément de base qui va faire toute la différence, mine de rien. Ça va être la façon dont ils aiment leurs gens. Et notamment, tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire tout à l'heure, ça fait écho aussi à un podcast que je viens de faire avec Bernard Ancelem, qui est médecin et puis chercheur en dans les neurosciences, sur la motivation durable. Et notamment, en fait, les trois composantes clés, c'est l'amour, donc comment on développe l'affect, comment on tisse les relations. Il y a effectivement, après, il y a comprendre et apprendre, hein, comment on développe nos compétences. Et puis, le troisième élément, c'est comment on développe l'autonomie, donc ce besoin de liberté et d'action et d'agir. Tout ça en cohérence avec le sens que l'on donne à sa vie tout court ou professionnelle et à ses valeurs. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment ce vers quoi on tend dans cette phase, finalement, où les gens sont pas mal démotivés quand même en entreprise.
Et particulièrement, si tu permets que je rebondisse, je pense que la notion de lien humain, elle est importante parce que ce besoin de sens et ce qui rencontre la liberté, ça nous fait chercher un sens individuel à notre existence. Et on est à un moment où le danger est que chacun construise son parcours dans son jardin, en télétravail pour ceux qui le peuvent, ou symboliquement dans son univers rapproché. Alors qu'on a besoin, à différentes échelles de la société, eh bien, de trouver un chemin collectif. Évidemment, au niveau d'une nation, on le voit en ce moment avec les réformes des retraites, qui interrogent la manière de voir eh bien, la vie ensemble, mais également dans son organisation. Et je ne crois pas que le monde sera agréable à vivre si on a une juxtaposition d'individus qui réfléchissent à comment grandir, peut-être même utilisent ce mot, grandir, mais sans s'interroger sur comment ce développement et ce chemin personnel, eh bien, il trouve sa place dans l'entreprise, d'où la préoccupation des organisations quant à leur ADN, leur culture, les espaces dans lesquels ils rassemblent les individus, leur vision. Passer de cette interrogation individuelle et l'utiliser comme un marchepied pour construire quelque chose de collectif.
Et justement, bah, tu vois, tu devances un peu ma question, mais je voulais t'amener sur ce terrain-là, parce que je sais que vous aviez mené une grande étude à la Fabrique Spinoza sur le service public, sur bah, justement comment on favorise à nouveau l'inspiration et le bonheur au sein de la fonction publique. Alors, je voulais t'interroger sur les grands leviers, selon toi, en tant que leader, pour favoriser le bonheur au sein de ces équipes.
Alors,
notamment, tu en as quand même déjà positionné quelques-uns. Hein, tu as parlé de finalement comment on donne du sens au quotidien et peut-être comment on co-construit avec le collectif ce sens que l'on donne à nos actions. Tu as nommé aussi toute cette réflexion sur l'espace. C'est vrai qu'effectivement, avec le travail hybride, il y a effectivement toute cette réflexion sur comment on offre une organisation et un management relativement souple qui laisse cette liberté finalement aux autres. Et puis, tu as nommé également finalement comment on régénère le collectif. Et c'est vrai que c'est un aussi des piliers de se dire finalement comment en tant que manager on se positionne en tant que facilitateur finalement de cette énergie collective. Alors justement, quels sont les autres ?
Je n'ai pas forcément envie de répondre sur les autres, mais plutôt comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin ou prendre ces concepts ou ces approches et puis les rendre opérationnels. Si on se dit que l'individu est effectivement plus libre qu'avant et qu'en même temps, il est un peu démotivé, désorienté, eh bien, le manager, tu l'as nommé facilitateur, mais il peut aussi être serviteur. Et ça, j'aime beaucoup ce terme parce que je trouve que, particulièrement dans la fonction publique, c'est une forme de mise en miroir entre le fait d'être que les agents soient au service des citoyens et que donc le manager puisse être au service des agents. Et cette posture-là, elle est intéressante parce qu'elle consiste à se dire à chaque instant, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider mes collègues, mes subordonnés, dirait-on, plutôt que d'avancer mon propre agenda, ma propre liste de tâches. Donc ça, ça me paraît important comme approche pour commencer.
Alors ça, tu vois, juste parce que ces derniers temps, je fais beaucoup de formations de leadership et je t'avouerai que j'entends ce que tu dis, puis on parle beaucoup du leadership servant, ouais. Tu sais. Et au final, finalement, ce leadership servant peut aussi, quelque part, infantiliser hein, les troupes. Hein. Finalement, si on se concentre sur comment je peux les aider, la tendance peut aussi s'en aller, finalement, vers l'apport de solutions à l'autre. Ce qui, quelque part, permet pas non plus aux collaborateurs de grandir. Et puis, je te dirais que moi, c'est un élément sur lequel je mets beaucoup l'emphase. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette déviance, finalement, de vouloir aider. Mais parfois, aider, ce n'est pas non plus... la façon qui permette de supporter le développement et le faire grandir, si tu veux. C'est une notion autre, j'imagine. Mais alors, du coup, est-ce que tu peux l'expliciter, selon toi ?
Oui, bien sûr. Ben, en fait, dans le manager-serviteur, dans le management-serviteur, il y a différentes facettes. Il y en a effectivement une qui est de favoriser le développement du collaborateur. Mmh. Donc, ça passe par le fait de ne pas faire à la place. Et puis, je pense que simplement, c'est se rappeler où on se situe aujourd'hui et se demander quel est le risque. Aujourd'hui, le risque, il est quand même plutôt de louvoyer entre deux extrêmes. La première étant le micromanagement où je te dis quoi faire, je te donne des directions très 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 précises. Je prescris ton travail hein, parce que j'ai tout compris en tant que manager. Mmh. Et puis l'autre, à l'opposé, qui est de dire je suis un manager qui donne de l'autonomie et en fait, j'abandonne un peu mes collaborateurs. Et j'aime bien utiliser cette métaphore. Si on dit à quelqu'un tu es libre en forêt, qu'est-ce que tu fais ? Ben, j'ai déjà fait cet exercice plein de fois avec des gens et les gens ont un panel de réponses très large. Je fais la cueillette des champignons, je fais une sieste, je me bâtis un abri, je cherche de la nourriture. Je cherche un refuge rapidement. Mmh. Et en fait, on voit que la liberté est un abandon s'il n'y a pas de vision. Et donc...
c'est beau, ça. Je la piquerai. La liberté. Ouais. Dis-la moi. La liberté.
La liberté sans vision est un abandon.
Oh, c'est ouais. Génial.
Et tu peux l'attribuer à la Fabrice Pinza. Parce que c'est voilà. Et je pense que se rappeler... De trouver sa juste place entre ces deux horizons et que finalement, si on entend le soutien comme un soutien multiple qui va comprendre, faire en sorte que la personne ait les bons locaux, les bons outils informatiques, un soutien émotionnel si besoin, une compréhension d'une vision générale qui lui permet, il ou elle, de trancher, alors, vu ainsi, eh bien, effectivement, c'est du soutien et non pas du faire à la place d'eux. Donc, je crois mmh. à cette approche-là. Et puis, peut-être un guide simple, c'est de se dire que on peut estimer à 10% un temps raisonnable consacré à donner la vision aux collaborateurs, au fameux pourquoi, au fameux why dont parlent les anglo-saxons. Et ça, à nouveau, ça nous donne... une métrique, désolé pour l'anglicisme, pour voir si on répartit bien son temps en tant que manager. Quand je dis ça, je prends pas du tout une posture haute parce que on vient d'accueillir une stagiaire et de troisième, de seconde, et je me suis dit hier que j'avais pas suffisamment pris le temps pour lui expliquer le sens global auquel contribuaient ces actions. Donc on est tous à devoir s'interroger là-dessus. Et je terminerai sur la juste posture du manager en disant que c'est important justement de ne pas être dans le sentiment de toute puissance ni non plus dans le fait de devoir porter un sac de cailloux supplémentaires avec je dois soutenir émotionnellement, je dois avoir la vision, une vision transcendante pour mes collaborateurs. Si le master, si le, l'executive master de Sciences Po dit que pour 96% des DRH, eh bien, c'est au manager de donner du sens, eh bien, une enquête de Deloitte qui s'appelle Sens interdit rappelle que le sens est une co-construction. Et donc,
c'est bon, voilà. Ça.
C'est parce que on discutera ensemble ou on a discuté ensemble de ce qu'on cherchait à accomplir avec cet épisode du podcast, eh bien, qu'on peut trouver une ligne directrice, qu'on peut ensemble imaginer quelque chose qui donne de l'énergie, alors même que, petit secret auditeur, j'étais un petit peu malade au début de ce podcast, mais j'ai eu de l'énergie en échangeant avec toi juste avant l'enregistrement, Ivan.
Merci, c'est super sympa. Dis-moi, juste, alors, petit point supplémentaire, parce que, tu sais, dans ton étude, j'ai vu aussi un point qui, moi, m'a interpellée, qui était justement dans les leviers pour favoriser, finalement, le bonheur au travail en tant que leader, qui était de distiller de la joie, tu vois, et nouer et développer, finalement, cette synergie humaine et le lien et la connexion à l'autre. J'aimerais ça que tu nous en dises plus. C'est quoi distiller la joie en tant que manager? Moi, ça m'interpelle.
Ben, comment dire? Je pense que ça passe par le fait de ne pas trop se prendre au sérieux. C'est le secrétaire général d'un grand groupe mutualiste qui, en visioconférence, lorsqu'il est en COMEX ou en CODIR, je ne sais plus, eh bien, met un filtre sur sa visio avec un déguisement, une petite fleur dans les cheveux, une perruque, etc. Et ce bonhomme qui porte une lourde responsabilité, une belle responsabilité, on va dire plutôt, eh bien, il rappelle, on n'est pas tous des pompiers ou des chirurgiens en train de sauver des vies. On croit en ce que l'on fait et en même temps, est-ce qu'on peut un instant insérer de la légèreté dans notre approche? Je pense que ça passe par là. Et après, avoir un petit mulot qui trotte dans la tête en se disant à quel moment est-ce que je suis en train de devenir un être robotique, c'est-à-dire dont le ton est uniquement monocorde et à asséner des instructions, versus un être vivant, un être joyeux, un être lumineux. Et on peut facilement oublier ça dans le monde du travail, alors même que d'après la psychologie positive, la joie est le premier ferment, bien sûr, du lien humain, mais la joie est aussi l'indication de l'élargissement des capacités cognitives. Aussi bien les psychologues et neuroscientifiques que Spinoza dit la joie est l'atteinte d'un degré de perfection supérieur de soi-même, et donc réussir à ressentir, vivre ou distiller la joie autour de soi, bah, c'est finalement, de manière très inattendue, bien favoriser un meilleur fonctionnement de l'organisation. Les biologistes vont même jusqu'à dire que le bonheur est un état optimal de fonctionnement de l'organisme, cognitif, émotionnel, physiologique. Donc la joie, c'est ce petit moment suspendu. C'est aussi l'anthropologue Dunbar qui dit que nous avons besoin de prendre des cafés parce que les cafés sont un épouillage social. Et d'après lui, pour garder les liens humains, les liens à l'intérieur de notre espèce, on a besoin eh bien, de 42% de notre temps consacré à de l'épouillage social, c'est-à-dire prendre soin de l'autre, échanger avec, recréer du lien. Alors c'est peut-être beaucoup, 42% au travail, mais se rappeler que ce temps consacré à la convivialité, c'est aussi celui qui favorise le partage d'informations, fortuit, sérendipitaire, l'émergence de nouveaux projets, la créativité, l'huile dans les projets, et que finalement, travailler, c'est aussi avoir ces moments-là, et ça tombe bien parce qu'on en a besoin.
Et tu vois, dans ce que tu me dis aussi, c'est vrai que moi, ce que je constate, parce que je suis revenue du Canada il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai vécu un petit bout de temps, et ce que je vois en entreprise, tu vois, en France, beaucoup, c'est... cette difficulté finalement à ne pas porter non plus toujours le masque, tes deux masques dissociés entre ce que je suis personnellement et professionnellement. Ça, ce lâcher prise sur finalement juste être, tel que l'on est, en toute authenticité, bah ça déjà, ça c'est lourd de sens, et c'est ce vers quoi effectivement aujourd'hui, cela dit, on est de plus en plus en recherche. Les collaborateurs ont envie d'authenticité, et je pense que tout le monde le mérite, qu'on soit d'ailleurs leader, dirigeant, collaborateur. Je pense qu'on se tend tous vers ça, mais il y a cette difficulté au lâcher prise quand même.
Il faut s'aimer un peu aussi pour faire ça, parce que si on peut, si on est persuadé que l'on est un être horrible et qu'en fait on est essentiellement, si on laissait libre cours à ses pensées, on est essentiellement une fabrique toxique, alors on est mal parti. Et en même temps, reconnaître que on a essentiellement de la richesse émotionnelle à partager avec l'autre et parfois un petit peu de détresse. Mais c'est certain que le former ses collaborateurs à la communication non violente, c'est probablement l'une des actions les plus déterminantes, parce que c'est à la fois profond au sens où ça permet à l'individu de s'interroger sur comment il se sent, en profondeur, et en même temps, c'est très opérationnel, parce que ça permet aux individus de mieux collaborer les uns avec les autres, à la fois en étant un petit peu intime et en même temps attentif et précautionneux, pour que l'authenticité ne se transforme pas en violence.
Ouais, c'est un vrai défi. Puis là, tu vois, je sors de 2 semaines de formation où ça n'était que ça, finalement. Et c'est vrai que c'est encore très déconcertant, tu vois, pour les uns et les autres, collaborateurs, managers, de finalement se dire, tu vois, dans cette sphère de la communication non-violente, où finalement, on remet au cœur nos émotions, hein, où finalement, l'objectif, c'est aussi d'apprendre à nommer son ressenti, eh bien, c'est très difficile. Et pourtant, tu vois, ce que je mentionne aussi, c'est comment c'est aussi un passe-droit vers la connexion à l'autre en tant qu'humain. Tu vois, c'est aussi refaire vivre une forme d'humanité quelque part dans nos entreprises, et on en a tellement besoin, quoi.
Et peut-être, tu sais, Ivan, pour parler à toutes les facettes de nous-mêmes et de nos auditeurs, c'est la Harvard Business Review qui rappelle, dans une interview à mon associé Amélie Mott, que 85% des compétences du manager de demain sont des compétences émotionnelles. Donc oui, il faut développer de l'expertise technique. Il faut, dans beaucoup de métiers, être analytique, être synthétique, etc. Mais dans beaucoup d'autres métiers et dans la totalité des métiers, on a besoin d'être intelligent émotionnellement, c'est-à-dire à comprendre, capable de comprendre pourquoi l'autre tout d'un coup a dit ton projet non. En fait, il veut juste dire j'ai mal dormi, et ça veut dire qu'il faut attendre un meilleur moment pour réenvisager une collaboration. Et je pense qu'il y a des décisions industrielles dont on ne suspecte pas qu'elles se prennent en ignorant les facettes émotionnelles de la vie en entreprise. Et vu sous un angle plus positif, c'est aussi d'écouter l'importance des émotions, qui permet de mieux comprendre ses consommateurs, de mieux comprendre les motivations des équipes, de prendre des décisions qui sont parfois plus risquées parce qu'il y a une intuition qui est une intuition raisonnable. Donc au point que j'ai rencontré le directeur de la R&D d'un grand groupe industriel français il y a quelques années, qui me disait « on a un problème, on a beaucoup d'ingénieurs, on a beaucoup d'hommes, et on a besoin de recruter plus de femmes parce que, et attention, je vais être très précis dans mes mots, l'intuition, la créativité, sont des qualités qui sont dites féminines, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont la propriété unique des femmes ou que toutes les femmes l'ont, mais qu'on a plus tendance à les observer chez des femmes. Et donc cette compétence-là, tant qu'on n'a pas réussi à devenir des êtres humains entiers, indépendamment de d'où l'on vient, de notre genre, de notre sexe, etc., il faut cultiver la diversité et l'intelligence émotionnelle dans les organisations.
Et notamment, tu vois, quand tu me dis ça, ça fait écho aussi au tout premier podcast que j'ai fait à Montréal, où j'avais été interviewée des chasseurs de tête canadiens, en leur disant, post-Covid, et notamment sur les dernières années, comment a évolué, selon vous, le leadership, et quelles sont vraiment les grandes constituantes actuellement. Et puis, la plupart d'entre eux, finalement, sont venus vers moi en me disant, bah, finalement, la personne qui, il y a 2 ans encore, était hautement performante, mais avec un style très autoritaire, et cela, finalement, en écrasant ou en n'étant pas porté sur ses collaborateurs, aujourd'hui, on ne peut plus garder, les personnes comme ça ne restent plus dans les entreprises. Parce qu'on a besoin, finalement, d'avoir des personnes qui vont savoir articuler l'humain pour construire ensemble. Alors qu'auparavant, on était vraiment sur quelque chose qui était peut-être plus orienté sur l'objectif, hein, trouver la personne qui allait nous permettre effectivement d'atteindre nos KPI, et puis ensuite trouver et qui serait, on va dire, l'idée les hommes. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans un style inversé, et rien que ça, c'est intéressant.
Oui, ça me parle effectivement, parce que aussi bien dans notre étude sur les nouveaux espaces de travail que celle à sortir sur le digital vertueux, on rappelle que le travail qui était vu comme un lieu de production, comme un exercice de production individuelle, est devenu collaboratif à partir des années 80 et puis l'utilisation des outils informatiques, et il est devenu ultra collaboratif à partir des années 2000 ou 2010. Et le travail ultra collaboratif, ça veut dire que on a fréquemment besoin, eh bien, de se rassembler pour délibérer, décider, créer, imaginer, partager de l'information. Et pour les plus jeunes qui écoutent, il y a une époque où on passait beaucoup moins de temps au téléphone, beaucoup moins de temps en visioconférence, beaucoup moins de temps en réunion. Mais aujourd'hui, eh bien, cette intelligence humaine, cette collaboration, elle est nécessaire, parce que c'est comme ça que se produit l'objet les services des entreprises et des organisations.
Alexandre, j'avais en tête une petite question pour toi, parce qu'on parle beaucoup, effectivement, on a parlé, si tu vas au niveau du bonheur au travail, du rôle du leader par rapport au développement de ce bonheur au travail, mais je pense qu'il y a réellement une responsabilité individuelle, hein, sur la façon dont on construit son propre bonheur, et notamment au travail. Alors, j'aurais bien aimé vous t'entendre là-dessus. C'est quoi les grandes démarches, selon toi, pour finalement prendre en charge, développer finalement son propre bonheur?
C'est une question qui est vraiment épineuse, particulièrement en ces moments de conflits sociaux, parce qu'on a une tradition en France qui consiste à se dire que l'organisation est responsable de la création d'un cadre de travail qui favorise l'épanouissement, ou en tout cas qui évite de rendre malade et crée de la sécurité pour les individus. Et donc c'est vrai, mais c'est aussi vrai que l'individu a une capacité à favoriser son propre épanouissement. Et donc on est dans une situation complexe où on ne peut pas être ni entièrement dans une vision anticapitaliste dur, où le travail assujettirait l'individu et donc c'est à l'entreprise uniquement de créer le cadre, et non plus une vision orientale ou anglo-saxonne dans laquelle l'individu est tout puissant indépendamment du contexte dans lequel il travaille. Donc moi, je crois au fait de faire bouger en même temps la gouvernance des organisations et en même temps s'interroger soi sur ses marges de manœuvre. Ça peut être des marges de manœuvre défensives comme la déconnexion, les exercices physiques, les exercices de centrage ou de pleine conscience pour apprendre à gérer son stress. Et puis, ça peut être des démarches qui sont finalement plus bâtisseuses, qui consistent, et la plus puissante que je connaisse, c'est celle où on se rassemble par équipe en se demandant qu'est-ce que l'on peut faire pour bien travailler ensemble, pour mieux travailler ensemble. Et cette question, elle est puissante parce qu'elle est au croisement des relations humaines, de l'épanouissement, de la qualité du travail et en même temps de l'opérationnel, des process et des modes de travail. Et rien n'est plus puissant qu'une équipe en train de se demander qu'est-ce qu'on peut faire à contraintes existantes pour aller mieux nous-mêmes dans notre travail. Et si les contraintes structurelles, organisationnelles et de gouvernance sont trop fortes, alors, il y a encore des solutions, et solutions, le mot est trop fort, mais en tout cas des radeaux de la Méduse, où finalement, on se crée des communautés, on se fédère et tel des Spartacus dans une entreprise, des pirates de l'intérieur, eh bien, on essaie de voir comment, en tissant un réseau d'ambassadeurs, du bien-être, on donne le nom que l'on veut, eh bien, on fait bouger les lignes indépendamment de la matrice et de la hiérarchie.
Et après, parce que là, tu es allé sur la sphère de l'équipe, finalement. Comment, aussi, à un moment donné, elle peut s'interroger sur ce développement du bonheur au travail. Mais l'individu, Alexandre, tu penses quoi, l'individu?
L'individu...
La petite idée, tu donnes ton avis là-dessus.
Oui, bien sûr. Je parlais hier avec Emery Jacquia, qui me disait que depuis qu'il a... Donc, le patron de la CAMIF, une très belle entreprise, et le patron de la communauté des entreprises à mission. Et il me disait, je pense que c'est un secret que je peux dévoiler, que sa fille, depuis qu'elle a 5 ans, eh bien, partage un journal de gratitude tous les soirs avec les merveilles qu'elle a vécues dans sa journée. Et j'ai oublié l'âge de ses enfants, mais je dirais qu'ils ont une vingtaine d'années. Et ça peut... Alors, j'imagine parfois que certains peuvent sourire en entendant ça. Et pour... remettre l'église au milieu du village. Ce sont des centres hospitaliers universitaires qui utilisent des protocoles de gratitude identiques, des journaux de gratitude pour des patients atteints d'inflammation cardiovasculaire, afin d'observer en 8 semaines une diminution des biomarqueurs inflammatoires. Donc, cette approche de gratitude, elle est tellement puissante qu'elle a un impact physiologique et évidemment, elle a un impact psychologique. Et finalement, elle peut être imaginée en entreprise. Et c'est un cabinet d'audit anglo-saxon. Je cite le livre de Akershaw, qui s'appelle The Happiness Advantage, qui a mis en place pendant 21 jours des exercices de gratitude où tous les matins, les collaborateurs étaient invités, chacun d'entre eux, à dire merci à un collègue, merci à soi, je fais ce podcast avec de l'envie, Ivan, alors que j'ai un petit frisson qui me parcourt. Et enfin, merci à la vie, parce que c'est chouette de pouvoir partager des convictions et de se dire que peut-être elles inspireront des gens dans leur quotidien au travail.
Et c'est vrai que, alors moi, c'est aussi souvent, c'est un élément que je positionne très fréquemment auprès des personnes que je coach, parce que notre cerveau a toujours tendance à accrocher le négatif dans la vie. Et puis ça, c'est inhérent justement à notre héritage, tu sais, du cerveau reptilien, dont d'ailleurs on a hérité des hommes préhistoriques qui avaient pour objectif finalement de nous mettre en automatisme de réflexe pour finalement survivre. Donc, ils identifiaient les dangers dans notre environnement, ce qui nous permettait effectivement de nous sauver. Et ce travail, finalement, ce qui est important, c'est de se dire que c'est un effort pour le cerveau, finalement, d'aller capter et de se positionner sur ce qui va bien dans nos vies. Donc, rien que de terminer une journée et d'identifier ce qui a bien été, ce en quoi on est fier, c'est effectivement un élément qui peut être très salvateur et nous amener à continuer la fin de notre journée de manière hyper positive.
Et pour mettre en abîme cette idée, se dire aussi qu'on a quand même de la chance, parce que si notre biologie nous invite à voir ce qui ne va pas pour survivre, en revanche, plus notre environnement est serein autour de nous et plus la nature biologique profonde de l'être humain s'exprime. Et c'est le biologiste Björn Grinde, dans son livre qui s'appelle le bonheur darwinien, qui rappelle que par défaut l'humeur d'un être humain est une bonne humeur. Donc, c'est tout cet équilibre entre se construire des conditions de vie qui permettent l'expression de cet niveau par défaut de bonne humeur et en même temps, lorsque ça n'est pas possible parce que la vie peut être chargée, pleine, on va dire, plutôt que chargée, prêter son attention, comme tu le dis, à ce qui va bien.
Ouais, mais c'est comme ce que tu disais, ça fait écho aussi à le fait que les émotions désagréables que l'on peut avoir dans la vie n'ont comme rôle que de nous ramener à l'émotion de la joie. De se dire finalement quel est notre besoin sous-jacent à cette émotion négative et que bien souvent on a envie effectivement d'enfouir, alors que c'est un élément qui peut nous alerter sur justement comment on peut traiter nos propres besoins.
Et pour faire se rencontrer différents univers, l'univers de l'individu et le monde du travail, se dire que ces réflexions qu'on porte ensemble là en échangeant, elles sont fongibles, elles sont possibles dans l'entreprise. Et c'est le patron de Mars, les barres chocolatées, le patron France qui dit « Moi, je donne 3 feedbacks positifs pour 1 feedback négatif. » Il ne dit pas négatif, il dit un feedback constructif. Et c'est intéressant de se dire que on est à la fois dans le champ du développement de l'individu et en même temps, on a des pratiques qui peuvent être mises en œuvre dans le monde de l'entreprise. Il y a probablement peu de choses aussi puissantes qu'œuvrer à la reconnaissance des collaborateurs en s'apprenant les uns les autres à faire du feedback et à évaluer la tonalité ou la valence de ce feedback. Est-ce que je suis toujours à dire ce qui ne va pas ? Est-ce que je suis toujours à dire ce qui va bien et ne pas oser dire ce qui ne va pas ? C'est une bonne mesure de les trous dans la raquette qu'on a en tant que collaborateur ou manager.
Complètement. Et puis, peut-être un autre point que je rajouterais par rapport à ce que tu mentionnes, c'est vraiment l'importance, et puis de plus en plus d'entreprises le font, hein, de développer la connaissance de soi individuelle, de ses collaborateurs, parce que plus on se connaît, plus on va être capable aussi d'agir pour s'aligner au quotidien sur finalement ce qui nous rend unique et donc contribuer encore plus largement finalement à l'entreprise et à la société. C'est soit une démarche effectivement qui est individuelle, qui est proposée par un employeur. Ça se fait de plus en plus. Moi, je vois de plus en plus de boîtes qui offrent des programmes comme ça en développement personnel et à tout type et pas simplement réservés à des dirigeants, mais aux collaborateurs. Et puis après, c'est aussi cette démarche individuelle de la vie, hein, de se dire finalement comment je peux davantage prendre le gouvernail de ma vie professionnelle aussi et faire en sorte que ce que je suis, mes talents, soient exploités avec sens, quoi.
Et j'aime bien, quand on a ce type de discussion, avoir dans un coin de la tête, porter les réflexions d'autres. Et dans les livres La comédie inhumaine et dans l'autre La tyrannie du bonheur, je crois qu'il s'appelle comme ça, j'ai un trou, eh bien c'est Julia de Funès et puis Eva Illouz qui rappellent qu'il ne faut pas renoncer dans le même temps à la transformation des structures sociales. C'est-à-dire que pas d'injonction au bonheur, pas faire porter tout un individu dans son organisation pour qu'il soit en capacité d'être heureux. Il faut vraiment faire coexister l'exigence vis-à-vis de l'entreprise à ce qu'elle transforme et en même temps encourager l'individu à aller au mieux et grandir dans cet univers-là. Et pour aller dans ton sens en conclusion, c'est Stéphane Collignon chez Imatech qui dit, qui accorde, si je me souviens bien, un droit au coaching individuel à l'ensemble de ses collaborateurs, en se disant que c'est ça qui les alignera avec les valeurs de l'organisation et puis qui fera d'eux des collègues humains, puissants, créatifs et joyeux.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, il y a une étude de Google, hein, pour rester dans les chiffres, qui dit que 70% des collaborateurs estiment qu'ils resteraient aujourd'hui chez leur employeur s'ils se sentaient supportés et développés. Alors, ça répond aussi à cette notion du faire grandir.
Combien de pourcents, tu as dit ?
70.
D'accord. Ok, intéressant. Je pense que ce chiffre, il révèle aussi que les gens sont un peu brinque-ballés au travail, mais aussi à côté, que les gens parlent de permacrise, crise écologique, crise sanitaire, crise économique, crise géopolitique. Eh bien, tout ça, ce sont des invitations à trouver des endroits où il y a du soutien. Et bien sûr, la famille en est un, les amis en sont un. Mais si l'entreprise se dit qu'elle est aussi là pour accompagner, j'aime beaucoup ce terme, les moments faibles, alors, eh bien, elle fait preuve d'humanité. Et en même temps, elle s'assure que le collaborateur, il retrouve son souffle et il peut embarquer dans l'aventure du collectif.
Puis c'est ce vers quoi aujourd'hui, je pense, les entreprises tendent. Et tu vois, s'il y a un des éléments, un effet positif quand même de toute cette phase de Covid, c'est bien ça, c'est cette mise en lumière de finalement redonner du sens, de finalement redévelopper aussi ses collaborateurs et de faire de l'entreprise un lieu un peu de réenchantement. Merci du coup Alexandre pour ce beau moment.
Merci à toi Ivan et plein de bonnes choses à ceux qui nous écoutent. On vous souhaite un bon chemin sur, si c'est possible, dans votre vie, vers un plus d'épanouissement au travail.
Vous avez écouté le podcast Le SaaS des leaders. Si vous aussi avez envie de passer à la prochaine étape dans votre carrière, le développement de votre leadership ou avec vos équipes, rendez-vous sur le-sas-coaching.com.